roi presque qui est à l'opposé, qui va aller jusqu'à supprimer les sujets. Je vais m'inspirer pour commenter cette parabole d'une interprétation d'une théologienne de Montpellier, Madame Marie-Laure Durand. Vous allez voir, son interprétation est un peu déstabilisante. Mais elle nous parle, cette parabole, dit-elle, des relations de pouvoir, de gouvernance, et finalement de nos échecs relationnels. Elle appelle la parabole le roi déçu. Un roi qui marie son fils, c'est une très bonne nouvelle. Et dans cette histoire, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Ça va faire un fiasco. On va même finir par compter les morts. Il y a des déceptions, des menaces, des amertumes du côté du roi, comme manifestement du côté des invités. Le projet des noces ne rencontre pas les aspirations de son peuple. Il génère même des malentendus, des dysfonctionnements. Et il va en finir donc à exécuter une partie de son peuple. Il voulait faire une fête. Les choses ont mal tourné. Il a échoué. Et on voit que l'histoire se construit autour du refus des invités, du refus de recevoir cette invitation. Et ce refus montre une situation dans le royaume qui nous échappe, qui n'est pas dit. Mais comme dans la plupart des conflits, on perçoit dans la réaction des invités des indices d'un double fond, d'un différend mal réglé dans le passé, d'une cicatrice mal refermée, d'une erreur non avouée du côté du roi. Et ça va ressurgir au moment de l'invitation, juste au moment où il ne s'y attend pas du tout. On va approfondir. Et tout d'abord, approfondir la situation du roi. Pour une raison qui nous échappe, donc les invités ont déchiré l'invitation. L'invitation ne fait pas écho à leur propre bonheur, par exemple au mariage de leurs propres enfants. L'invitation tombe d'en haut et elle tombe à côté. Quelque chose fait obstacle. Et il y aurait une nécessité à mettre à jour ce qui fait obstacle. Mais malheureusement, à aucun moment de la parabole, le roi ne fait la vérité. C'est donc sa première erreur. Il ne voit rien. Les invités refusent l'invitation. C'est un acte de liberté. Après tout, une invitation n'est pas une obligation. Et c'est la deuxième erreur du roi. Le roi fait croire à ses sujets qu'ils sont libres, que le choix est possible de venir ou pas, alors qu'il ne l'est pas. Il laisse croire la liberté quand elle n'existe pas, et ça c'est toujours très grave. C'est une tromperie. Peut-être que le roi pense qu'une invitation de sa part ne se refuse pas, mais à cause de cette croyance, la situation va devenir hors de contrôle. Il va dire « Voici, tout est prêt, venez aux noces, pour lui présenter le menu, eh bien, va suffire aux personnes pour adhérer à son projet. » Il va mettre en avant le don qu'il fait, l'urgence qu'il y a à participer. Tout est offert, tout est là à disposition. Mais quelque chose fait obstacle et personne ne va profiter du banquet. On va passer à côté. Il y a quelque chose même de tragique. Alors certes, cette interprétation charge beaucoup le roi, mais aussi les invités ont leur part de responsabilité. Ils sont responsables de leur silence ou de leur légèreté dans leur réponse, alors qu'ils donnent à voir en fait un très grand mépris de la part de l'acte généreux du roi. Ils ne se doutent pas qu'ils réveillent dans le roi la faille. Ils vont l'élargir. Et même d'autres vont profiter de cette situation pour régler le compte avec le pouvoir. Ils vont tuer les porteurs de l'invitation. Et à ce moment-là, il va y avoir un degré de colère et de frustration chez le roi qui fait penser au drame de l'actualité. La réaction du roi, ultra-violente et injustifiable. Mais il dit « il n'en était pas digne ». Pour lui, être digne, c'est être capable d'apprécier le don offert, Mais si les gens ne sont pas libres, comment voulez-vous qu'ils puissent être dignes? Comment pourrait-il apprécier le don reçu? Être digne, nous dit la parabole en creux, c'est là qu'elle est très puissante. C'est être digne, c'est le fait qu'on m'ait révélé en quoi je suis précieux et unique. Et en remplaçant les invités par n'importe qui, ceux qui arrivent à droite, à gauche, les bons comme les mauvais, le roi a cette incapacité à reconnaître à la fois les premiers invités comme les seconds, comme des personnes uniques et précieuses. On voit quand même, quand il entre dans la salle des noces, il s'adresse à l'un d'entre eux. Il va dire « mon ami ». Peut-être que là, il répare son erreur. Mais le pauvre, pauvre invité est muet. Il est incapable de raconter sa propre histoire. Et peut-être qu'on se demande, s'il n'arrive pas à poser des mots sur sa vie, c'est que personne jusqu'à présent ne lui a révélé qu'il était précieux et unique. C'est ça être digne, c'est pouvoir dire quelque chose de sa propre histoire. Et à ce moment-là, une fois encore, les choses vont mal finir avec la colère et l'amertume dans le dehors, l'exclusion. Et la parabole, à mon avis, c'est la plus étrange, hein, des paraboles de Jésus. Elle va se terminer par l'inverse de la bonne nouvelle. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Qu'allons-nous comprendre? Comme si on pouvait entrer dans le royaume qu'en participant à sa propre vie. Autrement, on ne peut pas. Si on n'est pas dans notre vie en vérité, et si on ne peut pas aider les autres à le faire, à se reconnaître comme précieux et unique, que ce soit si on est comme le roi, ayant des pouvoirs, des autorités, des responsabilités, c'est vrai aussi, bien sûr, pour les invités. Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que la noce sera réussie. Nous serons dignes. C'est ce que Jésus est venu nous révéler. Et dans cet imbroglio de relations que révèle cette parabole, nous pensons à ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, particulièrement en Terre Sainte. Et on dit au Seigneur, encore une fois, viens guérir nos relations.